exception.
Bien. Donc, Sylvain Crépon, la politique des mœurs au Front National. C'est parti.
C'est parti. Combien de temps à peu près j'ai...
Tu as prévu combien de temps?
J'ai aucune idée de...
45 combien... minutes.
45 minutes.
D'accord. Ok. Je pense qu'il nous reste un petit peu de temps pour discuter après.
Ok, ça marche. Bon, bah bonjour à tous, merci Philippe pour cette invitation. J'espère qu'elle va m'être autant profitable qu'à vous. Moi je ne suis pas du tout un expert des questions de sexualité, de genre ou même de mœurs. C'est quelque chose que j'ai trouvé secondairement sur mes terrains d'enquête. Donc à titre indicatif, ça fait maintenant, ça va bientôt faire 20 ans que je suis le Front National en tant qu'objet d'étude. Alors je ne travaille pas que sur le Front National, mais j'ai envie de dire que c'est un peu mon objet de prédilection. Et j'ai commencé notamment à travers une, même au-delà d'une thèse, c'était un DEA sur les jeunes militants du Front National. Et c'est vrai que cette question, alors pour faire court, je dis des mœurs, mais des questions de liberté sexuelle, étant donné que j'ai étudié les jeunes à la fin des années 1990, c'est quand même quelque chose, c'est une chose à laquelle j'ai été confronté assez rapidement. Et notamment du fait que j'étais confronté à une sorte de clivage générationnel au sein du Front National, où il y avait d'un côté la vieille génération, assez traditionnaliste, une partie des catholiques intégristes qui étaient rattachés au Front National autour de la figure de Bernard Anthony, qui a quitté le Front National maintenant, donc ça a contribué un peu à redéfinir cette problématique. Mais en tout cas, à l'époque, à la fin des années 90, ils étaient très, très présents, et au sein des jeunes militants, moi je voyais déjà des gens qui me tenaient des discours pas du tout anti-avortement, qui condamnait absolument pas la contraception, enfin, et puis qui, au niveau des mœurs, avait des relations, enfin, je veux dire, comme pouvaient en avoir des jeunes de leur génération à leur époque. Donc ça, c'est une des premières choses qui m'a intéressé et qui fait que déjà dès cette époque j'ai commencé à m'intéresser à cette question de l'égalité homme-femme, de la sexualité et de l'attitude à l'égard des mœurs. Et donc lors de ma dernière enquête au sein, enfin je fais toujours un peu terrain au sein du Front National, mais lors de la dernière enquête que j'ai menée pour le dernier ouvrage que j'ai sorti en 2012, j'ai fait une enquête d'à peu près 2 ans au sein du Front National, et ça correspondait avec l'accession de Marine Le Pen à la tête du Front National. Et c'est vrai que Marine Le Pen a eu certaines déclarations, certains propos concernant la liberté des mœurs, l'avortement, l'homosexualité, qui, là, pour le coup, d'un point de vue de discours officiel, tranchait complètement avec ce que j'avais entendu jusqu'ici au sein du Front National. C'est-à-dire qu'auparavant, je pouvais avoir des discours qui étaient assez... enfin, qui faisait part d'une certaine forme de libéralisme en matière de mœurs, mais c'était toujours en tête-à-tête. Là, c'est la première fois que j'entendais un discours tout à fait ouvertement, officiel, à la tête du Front National, qui disait prendre, par exemple, la défense des homosexuels, ou qui disait qu'il ne fallait pas interdire la loi Veil. Et c'était quelque chose d'assez nouveau, au point que j'ai décidé de m'y intéresser, et que je continue de m'y intéresser, je continue à faire... à rencontrer, à interroger des gens sur la question. Autre phénomène auquel j'ai été confronté, c'est des gens qui m'ont fait part de façon tout à fait ouverte de leur homosexualité. Et ça, c'est pareil, hein, les années précédentes, j'avais... Alors, bien sûr, je savais qu'il y avait des homosexuels au Front National, c'était un secret de polichinelle, mais il n'y avait jamais de coming out qui était fait, et là, pour la première fois, j'avais des gens qui me faisaient part de façon tout à fait ouverte de leur homosexualité. Donc, ce revirement apparaît avec la prise du pouvoir à la tête du Front National par Marine Le Pen face à Bruno Gollnisch lors d'un vote des adhérents en janvier 2011. Et dès le 1er mai 2011, à la fête de Jeanne d'Arc, donc qui a lieu tous les 1er mai, qui réunit les forces du Front National à Paris, Marine Le Pen prononce un discours dans lequel elle dit, je la cite, « qu'on soit homme ou femme, hétérosexuel ou homosexuel, chrétien, juif, musulman ou non-croyant, on est d'abord français ». Alors bon, ça c'est quelque chose que vous avez sans doute déjà entendu, ça a été abondamment relayé dans les médias. Mais c'est vrai que cette phrase qui exprimait une forme déjà de plébiscite des valeurs républicaines tranchait avec ce qu'on avait l'habitude d'entendre sur notamment, je pense, de mettre à égalité hétérosexuel et homosexuel. C'était quelque chose d'assez nouveau. Donc c'est quelque chose qui m'a assez interpellé. Et ensuite, dans ce même défilé, j'ai été assez surpris de voir des gens que j'ai identifiés très rapidement comme étant homosexuels, hommes ou femmes. Et ça aussi, c'était l'apparence, la différenciation sexuée est assez visible au sein du Front National. Et là, c'est vrai que j'avais des gens qui étaient dans une apparence, un peu en tout cas au niveau de l'accoutrement, beaucoup plus ambigu, et donc je suis allé voir ces gens pour les interroger, parce que c'est quelque chose que, à mon avis, on n'aurait pas pu voir les années précédentes. Ça ne serait pas passé. Les gens n'auraient pas pu se mêler à la foule dans ce défilé. Et c'est comme ça que j'ai commencé cette investigation et que je me suis intéressé à cette thématique, alors encore une fois, pour aller vite, des mœurs au sein du Front National. Alors, les catégories de beaucoup de catégories de population auxquelles fait référence Marine Le Pen dans la phrase que j'ai citée, les homosexuels, les juifs, les musulmans, les non-croyants ont souvent été victimes des diatribes de Le Pen Jean-Marie. Il y a eu beaucoup de déclarations, je vais y revenir, assez stigmatisantes à leur encontre. Et c'est des populations qui ont été en quelque sorte, on va dire, diabolisées. Alors Marine Le Pen, elle, à l'inverse, a tenu d'autres déclarations, par exemple, dès le décembre 2010, donc juste avant qu'elle prenne la tête du Front National, elle déclare à Lyon, par exemple, je cite, « J'entends de plus en plus de témoignages sur le fait que dans certains quartiers, il ne fait pas bon être femme, ni homosexuel, ni juif, ni même français ou blanc. » Donc ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant sur lequel je vais revenir dans ma communication, qui est cette dimension de la défense de certaines minorités, la mise en avant de la défense de certaines minorités, autrefois attaquées et stigmatisées par le Front National. Et là, une sorte de retournement où il y a véritablement la volonté de se présenter comme étant le défenseur de ces minorités. Je parle notamment des homosexuels ou des juifs. Donc, ceux qui sont, en ce qui concerne cette dernière phrase, vous l'avez compris, ceux qui sont mis à l'index, c'est une minorité qui n'en fait pas partie, ce sont ceux qui autrefois étaient qualifiés d'arabes, de maghrébins, qui aujourd'hui sont qualifiés pour l'essentiel de musulmans et qui sont définis par le Front National, par les responsables du Front National, comme étant responsables des persécutions dont seraient victimes, donc encore une fois, les homosexuels, les juifs, les femmes ou les blancs dans certaines zones, certains quartiers où ils seraient en nombre important. Donc, ce discours se développe également dans un contexte qui est marqué par les attentats du 11 septembre, un contexte post-11 septembre, qui a été marqué également par le déclenchement de la seconde intifada, par certaines émeutes de banlieue, par le phénomène qu'on a qualifié de tournante, entre guillemets, de viol collectif, d'actes homophobes, etc., et qui a médiatisé très fortement certaines populations issues de quartiers assez difficiles, d'origine immigrée, mais pas nécessairement. Voilà, donc j'ai posé le socle de mon intervention. Maintenant, je vais revenir je vais plutôt commencer par certaines spécificités idéologiques de l'extrême droite concernant justement le féminin et je développerai ensuite sur la question de l'homosexualité. Alors, on le sait quasiment tous, pour l'extrême droite traditionnelle, le rôle de la femme, c'est d'être essentiellement une mère de famille, hein, c'est d'être, de se cantonner au foyer, au domestique, et sa fonction essentielle, c'est d'être une fonction reproductrice de façon à permettre au corps nationale de se régénérer, de se reproduire. Donc là, on est, ça s'inscrit parfaitement dans un ordre de la loi naturelle qui a été toujours mis en avant par l'extrême droite. Alors je veux juste faire une petite précision parce que c'est une réflexion qu'on me fait souvent lorsque je fais des interventions. Je pense qu'il faut se garder déjà de faire du FN une forme de bouc émissaire des travers sexistes de la société. Hein, on a souvent tendance à dire, bon, c'est le Front National, ou en tout cas c'est l'extrême droite qui est sexiste, et c'est quelque chose qui ne toucherait pas les autres mouvements politiques. Lorsqu'on étudie ou lorsqu'on lit un peu la littérature sur le militantisme politique dans les autres partis, et même moi j'ai fait des enquêtes par exemple au sein du Parti Socialiste, on voit quand même par exemple qu'il y a une très forte inégalité des formes, des tâches militantes, hein, ou une répartition sexuelle des tâches militantes qui est extrêmement forte, extrêmement importante, et ce dans des partis comme, comme le PS ou y compris les Verts. Donc, il ne faut pas voir non plus les travers sexistes uniquement à travers le Front National, mais c'est vrai que pendant des années, le Front National était un parti qui assumait en quelque sorte cette dimension sexiste. Alors ce qui est intéressant au niveau du Front National et des mouvements d'extrême droite, et ça c'est une chose à laquelle je me suis beaucoup intéressé, c'est que c'est un parti qui conjugue sexisme et nationalisme. Hein, donc domination d'un ordre, enfin reproduction d'un ordre, d'une domination sexuée et sexuelle, et d'autre part, nationalisme. Donc, par exemple, le fait que la femme soit assignée à la reproduction du corps national, ça fait dire à Jean-Marie Le Pen, ce que je cite dans le petit résumé que je vous ai donné, en 96, Jean-Marie Le Pen dit dans une interview au journal Le Parisien qu'il est ridicule de penser que le corps des femmes leur appartient, il appartient au moins autant à la nature et à la nation. Donc là, c'est vraiment la fonction reproductrice de la femme au sein du corps national. Cette conjonction entre domination masculine, nationalisme et fonction reproductrice de la femme, c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le programme du Front National. Par exemple, dans le programme du Front National, vous n'avez rien qui concerne spécifiquement la femme, vous n'avez rien évidemment qui concerne spécifiquement le droit des femmes, mais vous avez une rubrique qui concerne la famille et la défense de la famille, la politique de la famille, et si je cite le programme, qui dit « Une politique familiale volontariste est un des premiers gages de la solidarité nationale et de la préservation de notre identité nationale. » Donc là, il y a vraiment identité nationale et fécondité qui vont de pair. Alors, pour décrypter, continuer à décrypter un peu les choses, c'est quelque chose que l'on voit, par exemple, dans l'analyse que fait le Front National du taux de fécondité. Le taux de fécondité, nous dit le programme du Front National, est officiellement de 2,02 enfants par femme, que l'Europe entière nous envie. Mais ce taux de fécondité est erroné pour le Front National, puisqu'il ne tient compte que des femmes qui... Enfin, il tient compte des femmes, de l'ensemble des femmes qui accouchent en France. Or, selon la vision du Front National, il faudrait tenir compte des femmes qui accouchent en France et qui ont la nationalité française. Ce qui n'est pas la même chose. Et revu à travers cette nouvelle équation, il est de 1,8 enfants par femme. Donc ce qui est évacué à ce niveau-là, c'est tout simplement le principe du droit du sol, hein, le principe républicain du droit du sol, qui fait que est français tout enfant qui naît en France et qui y grandit jusqu'à sa majorité. Donc là, on voit encore conjugaison entre démographie et nationalisme. Alors malgré tout, il y a quelques changements qu'on voit apparaître au sein du Front National. Dans le projet même présidentiel du Front National, il y a quelques changements. Par exemple, en ce qui concerne les allocations familiales, vous avez l'ancien programme du Front National qui avait été concocté par Bruno Maigret dans les années 1990, qui s'appelait « 300 mesures pour la France ». Et qui mettait en avant, je cite, « le choix pour la mère de famille de se consacrer à plein temps à l'éducation de ses enfants ». Donc c'était un salaire qui devait être attribué aux mères de famille qui souhaitaient arrêter de travailler pour élever leurs enfants. Et le programme de 2012 stipule quant à lui la volonté de mettre en avant un revenu parental qui permet aux mères ou aux pères de choisir librement entre l'exercice d'une activité professionnelle et l'éducation de leurs enfants. Bon, ce qui correspond grosso modo au congé parental actuel, mais qui montre malgré tout qu'il y a une certaine forme, une certaine adaptation à l'évolution des mœurs, en tout cas en la matière. Alors, en ce qui concerne la démographie et la fécondité, il y a un autre élément qu'il est intéressant, sur lequel il est intéressant de s'arrêter, c'est la question de l'avortement. Alors, au niveau officieusement, c'est quelque chose qui est assez ancien au sein du Front National, et pour avoir étudié les jeunes générations dans les années 1990, à la fin des années 1990, moi je rencontrais très peu de jeunes qui me disaient être contre l'avortement. La plupart des jeunes, déjà, pour eux, l'avortement c'était un acquis. J'ai plusieurs fois interviewé des jeunes filles qui m'avaient dit avoir eu recours à une IVG, donc c'est quelque chose qui semblait aller de soi. Et maintenant que cette génération des années 90, qui est la génération de Marine Le Pen, a pris les commandes du Front National, bon bah... Il n'y a plus, par exemple, dans le programme, la volonté de revenir sur la loi Veil. Alors, en même temps, le Front National, c'est un parti politique, donc il faut malgré tout composer avec les différentes franges qui le composent. Et notamment, même si la plupart des catholiques traditionnalistes sont partis, il y en a toujours qui sont actifs, notamment autour de Bruno Gollnisch. Et c'est pour ça qu'il y a eu toute cette polémique, je ne sais pas si vous avez suivi ça, autour des avortements de confort et la volonté de ne pas rembourser ce qui était défini comme des avortements de confort, ce qui était en quelque sorte une sorte de menace sur le remboursement des avortements, mais qui était davantage une stratégie interne de façon à neutraliser la volonté, ou en tout cas le pouvoir de nuisance qu'avaient certains traditionnalistes au sein du Front National. Beaucoup de cadres de premier plan du Front National me disent en off qu'ils sont absolument pas pour cette histoire d'avortement de confort, quand bien même ils ont pu le déclarer dans la presse. Alors, cette dimension quand même de la fécondité, de l'avortement, c'est pas quelque chose d'aussi anodin. Bon, là je renvoie aux travaux de Françoise Héritier, de Margaret Marouani, hein, qui montrent que domination masculine et fécondité des femmes, c'est quand même quelque chose qui est assez ancien et qui fait que dans les mouvements d'extrême droite, l'avortement et même parfois la contraception étaient associés à une certaine forme de décadence morale qui touchait l'Europe et notamment l'Occident en général. Moi j'ai même rencontré des cadres catholiques traditionnalistes qui me disaient que pour des raisons de pragmatisme, ils n'allaient absolument pas s'opposer à la loi Veil. Alors même si on retrouve chez certains d'entre eux, bon, la rhétorique qu'on connaît chez ce qu'on appelle les pro-life, c'est-à-dire le libre choix pour les femmes de ne pas avorter, hein. Bon, ça c'est quelque chose qui est assez fort dans les mouvements d'extrême droite et notamment les mouvements conservateurs, c'est-à-dire la récupération de la rhétorique des mouvements progressistes. Donc vous avez par exemple au niveau culturel, au niveau de la défense des identités, vous avez le différentialisme culturel qui n'est pas de dire on restreint l'accès à notre nation, à notre identité, on fait la valorisation des identités, mais chacun chez soi afin de préserver l'ensemble des identités. Bon, bah ça c'est quelque chose qu'on voit également en matière de mœurs et avec cette question de l'avortement. Alors, tout ceci s'ancre dans un contexte général hein, où la liberté des mœurs est de plus en plus ancrée en France dans les consciences, hein, avec une moindre prégnance de l'institution du mariage. Bon, là, je m'appuie sur les travaux de Nathalie Bajos hein, ou de Michel Bozon. L'augmentation du nombre de divorces ou le fait que l'homosexualité est quelque chose qui, de plus en plus, va de soi. Alors, dans les entretiens que j'ai faits avec les cadres et les militants, les adhérents du Front National, je me suis quand même intéressé à cette question et je les ai beaucoup questionnés sur cette question alors du féminisme, de la sexualité, du rapport à l'homosexualité. Et alors, tout d'abord, si on prend la dimension du féminisme, ce qui est intéressant, ça aussi, c'est quelque chose de nouveau que j'ai constaté dans les enquêtes que j'ai faites, y compris avec des personnes assez âgées, c'est une forme de consensus exprimé autour des valeurs féministes. Ça a l'air d'aller de soi qu'on défend les valeurs féministes, alors à savoir l'égalité homme-femme, l'égalité salariale, la contraception, l'avortement, oui, la plupart des militants ne s'y opposent pas. Et quel meilleur exemple à mettre en avant que celui de la présidente du Front National, hein, elle-même une femme active, avocate, mariée deux fois, divorcée deux fois, pardon, qui vit dans une famille recomposée sans être mariée. Et ça, c'est vraiment l'exemple qu'on ne cessait de me mettre en avant. Bah, regardez notre présidente, après ça, si vous voulez dire qu'on n'est pas un parti, qu'on est un parti opposé au féminisme, vous repasserez. Donc, pour autant, en ce qui concerne le féminisme, j'ai vu alors beaucoup une forme de double discours, c'est-à-dire de discours assez contradictoires, et ça c'est quelque chose qui est beaucoup tenu par les femmes, notamment. C'est-à-dire que d'un côté, on met en avant les acquis des luttes féministes, on en profite dans sa vie quotidienne, on prend la pilule, éventuellement on a eu recours à une IVG, on revendique l'égalité salariale. Et en même temps, il y a une tendance très forte à ringardiser les discours des associations féministes, qui sont souvent qualifiées alors d'hystériques. Ça, je l'ai beaucoup entendu dans des entretiens, et c'est un terme qui est beaucoup utilisé par les femmes, notamment, donc c'est tous les poncifs des discours sexistes. Et ce que j'ai trouvé intéressant, et c'est là où j'ai retrouvé le discours culturaliste, c'est que j'ai vu beaucoup est fait une dissociation entre l'amélioration des conditions de la femme et les luttes féministes qui les ont portées. Et de ce point de vue-là, l'amélioration du discours de la femme est pas perçu comme du point de vue du combat politique, mais comme étant le propre de la culture occidentale, et voire même comme étant le propre des valeurs judéo-chrétiennes. Et donc ça, c'est vraiment là où j'ai vu une sorte de rupture générationnelle au sein du Front National, entre les anciennes générations qui ont tendance à dire « mais finalement, les valeurs, la permissivité sexuelle, le féminisme, ce qu'on peut appeler tout, pour aller vite, mais tout l'hédonisme », est perçu comme une rupture avec les valeurs de la tradition et finalement quelque chose qui menace l'identité traditionnelle. Tandis que pour la jeune génération, au contraire, la jeune génération réinscrit cette dimension de la permissivité sexuelle, de la libération des mœurs et du féminisme dans la tradition occidentale, et voire même, ça a été exprimé comme ça, des fois judéo-chrétienne. Donc c'est en quelque sorte faire table rase de tous les combats féministes pour réinscrire ce processus d'émancipation comme étant quelque sorte le propre de la culture occidentale. Ce serait ontologiquement issu de la culture occidentale naturellement, et ça aurait naturellement éclos sans qu'il y ait eu besoin de lutte ou autre. Ça, c'est quelque chose qu'on voit également, c'est le même discours qui est tenu par exemple pour la mise en avant des valeurs laïques. Le Front National se prétend désormais le meilleur défenseur des valeurs laïques, qui serait attaqué, bon, encore une fois, je reviendrai dessus, mais par l'islam en France. Mais la laïcité serait naturellement issue de la tradition judéo-chrétienne, et notamment chrétienne, qui, elle, fait le distinguo entre ce qui est du monde de Dieu et ce qui est du monde des hommes. Donc la sécularisation serait déjà contenue en quelque sorte dans le Nouveau Testament, et finalement c'est quelque chose qui n'a plus qu'à éclore à un certain moment. Bon, alors, quand on s'intéresse un peu à la question, qu'on voit un peu certains travaux, même chez ceux de gauchers, on se rend compte qu'évidemment c'est beaucoup plus compliqué, qu'il s'agit d'une interprétation du Nouveau Testament, de ce principe du monde de Dieu et monde des hommes qui a été fait au Moyen-Âge et pas du tout, et qui n'est pas contenu en tant que tel. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, d'un point de vue idéologique, est extrêmement efficace. Et ça a pour conséquence de créer une frontière irréductible entre l'autre, essentiellement maghrébin, musulman, et le même, auquel désormais sont rattachés et rattachée la minorité juive, qui est considérée comme étant un même, comme étant européenne, comme étant occidentale, et de rejeter donc la religion qui, elle, ne ferait pas le distinguo entre monde de Dieu, monde des hommes, entre la sécularisation, et qui serait donc, dans son essence même, incompatible avec le principe de laïcité, à savoir l'islam. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très prégnant, qui est très efficace d'un point de vue idéologique, qui marche très bien chez les jeunes, un peu moins bien chez les générations plus âgées, et notamment catholiques, puisque effectivement les catholiques traditionnalistes se sont toujours opposés à la laïcité, hein, ne l'ont jamais mise en avant. Mais là, il y a vraiment, encore une fois, une rupture générationnelle, je dirais, entre ceux qui ont, au sein du Front National, un peu moins de 50 ans, bon, je veux dire entre 50 et 40 ans, et moins, et les générations plus âgées attachées aux valeurs du catholicisme. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a paru très intéressant, cette inscription du féminisme dans la culture occidentale, et qui est un moyen, finalement, qui se conjugue, encore une fois, avec le nationalisme, et c'est-à-dire en ce sens qu'on rejette les musulmans. Alors, ceci étant dit, et c'est là où, lorsqu'on fait des recherches sur ce genre de questions, on ne cesse de marcher sur des œufs, parce qu'on est face à des débats extrêmement sensibles, hein, et ça c'est un débat qui a traversé, pour avoir travaillé également sur les signes religieux, je sais qu'il y a des questions d'immigration d'origine maghrébine, d'intégration et de rapport à la laïcité, ce sont des débats extrêmement sensibles. Mais c'est vrai que si on prend par exemple les enquêtes, l'enquête qui a été faite, que je trouve remarquable, de Sylvain Brouard et Vincent Tibéry en 2005 sur les musulmans français, donc ils ont fait vraiment une enquête avec un panel extrêmement important en travaillant à partir de la nationalité des parents pour essayer de récolter des informations sur les Français, alors on va dire de confession ou supposément de confession musulmane, il faut toujours prendre beaucoup de... il faut toujours être prudent. Bon, il montre effectivement que les Français issus de cette immigration de pays majoritairement musulmans sont davantage réfractaires à la permissivité sexuelle que ne le sont les Français dans leur ensemble. Donc ça, c'est des choses qu'on, quand on fait ce genre de recherche, on ne peut pas les occulter. On ne peut pas, au nom de considérations idéologiques, d'opposition au Front National, les évacuer. Et donc, c'est des choses que j'ai intégré dans ma recherche, et Brouard et Tibéry montrent ainsi que, par exemple, 32% de ces personnes, alors supposément de confession musulmane, considèrent que, par exemple, les femmes ne doivent pas avoir de rapport sexuel avant le mariage, contre 8% pour le reste de la population. Donc c'est vrai que ce discours du Front National s'inscrit dans un contexte sociologique où on constate véritablement un différentiel entre les deux. Cette enquête indique également que les jeunes hommes de 18 à 24 ans, pardon, qui sont issus de l'immigration maghrébine, africaine et turque, sont bien moins permissifs que leurs homologues féminins. Donc là encore, on voit une certaine forme de reproduction de sexisme, hein, c'est respectivement 27 et 42%. Et comme ils le disent, je cite les auteurs de l'enquête, le fait d'être de confession musulmane est très souvent associé à un conservatisme face aux conduites sexuelles. Ce qui fait que vivre dans un espace de relégation tant sociale qu'ethnique accroît le risque de se retrouver confronté à des comportements sexistes. On a tous compris que ça n'existe pas que dans ces espaces de relégation, que plus on augmente dans l'échelle sociale, plus ces formes de domination sont euphémisées. Bon, il y a des tas de recherches qui ont montré ça, mais que c'est une donnée qui ne saurait être évacuée. Alors pour autant, Brouard et Tibéry montrent de façon éclairante que la tolérance en matière de conduite sexuelle chez cette population augmente avec l'âge et avec le niveau de diplôme et le degré d'insertion professionnelle. Donc évidemment, il n'est pas question d'un déterminisme culturaliste ou pseudo-culturaliste comme essaye de le faire le Front National, mais naturellement, c'est quelque chose qui se conjugue avec un degré d'insertion sociale, socio-professionnelle, de niveau d'études ou autre. Donc, ce qui caractérise le discours du Front National, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un discours qui dépasse même le Front National. Vous avez une association, par exemple, qui s'appelle Riposte Laïque, qui a été fondée par d'anciens responsables de gauche, y compris issus de l'extrême gauche. Je pense à son président, Pierre Cassène, hein, qui vient de la Ligue communiste révolutionnaire, et qui, au nom de la défense de la laïcité, des valeurs de la laïcité, ont basculé véritablement dans un discours culturaliste, hein, où on essentialise la culture de l'autre, en l'occurrence la culture des musulmans, pour en faire en quelque sorte un miroir inversé de ce qui est censé être la culture des autochtones et perpétuer de la sorte une certaine forme de logique xénophobe. Donc pour illustrer ce genre de discours, j'ai des tas d'exemples. J'en prends un parmi d'autres, Stéphane Ravier, qui est le candidat du Front National à la mairie de Marseille, qui est une personne qui a une quarantaine d'années. Pour la petite histoire, je l'avais déjà interviewé il y a une vingtaine d'années, et ça m'a permis de mesurer toute l'évolution de son discours sur ses 20 ans. Et lorsqu'il me parle de l'immigration, que lui appelle l'immigration musulmane, il me dit que les vagues migratoires venues d'Europe, dont sa mère qui est née en Italie, ces populations, ces vagues migratoires se sont parfaitement intégrées, étant donné qu'en plus d'avoir appris la langue française, elles avaient la même conception peu ou prou de la place de la femme dans la société, la même religion. Vous voyez que ce sont deux choses qui sont mises en quelque sorte, de ce point de vue-là, sur un point d'égalité. Donc, c'est ce qui fait dire à Stéphane Ravier et aux gens du Front National, la plupart d'entre eux, en tout cas ceux de sa génération et en dessous, que les musulmans seraient inassimilables, qu'on ne pourrait pas les intégrer et que donc, naturellement, il faudrait les laisser, en tout cas, se débarrasser de cette population. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que de ce point de vue-là, le féminisme, ce qu'on peut appeler l'hédonisme, sont perçus comme, pour les anciennes générations, comme une rupture avec la tradition française, hein, et pour les nouvelles générations, sont réintégrés dans la tradition française. Ce que ça révèle à ce niveau-là, sur cette forme d'essentialisme essentialisme identitaire, hein, c'est tout simplement que l'égalitarisme est dépossédé de sa version universelle. Et c'est là où on revoit la logique, le fondement idéologique de l'extrême droite, hein, qui se caractérise essentiellement par cette dimension anti-égalitariste. Alors, évidemment, moi, dans le cadre de mon enquête, j'ai été confronté à des gens, donc je l'ai dit, qui m'ont fait part de leur homosexualité très rapidement. Très rapidement, lorsque, par exemple, je faisais référence tout à l'heure au défilé de Jeanne d'Arc, auquel je me suis rendu en 2011, et je suis allé interviewer des gens que j'ai identifiés comme étant homosexuels, et qui, mais dans la 3/4e phrase, la première chose qu'elles m'ont dite, c'est « Moi, je suis homosexuel. Moi, je suis homosexuel, et je suis au Front National. » Et vous voyez bien que ce n'est absolument pas incompatible. Et ça, quelques années auparavant, c'était quelque chose qu'il était impossible de voir au sein du Front National. Alors là, on peut faire un retour en arrière également sur la question homosexuelle au sein du Front National. Alors il y a un petit ouvrage qui a été publié par Nicolas Lebourg et Joseph Beauregard sur les numéros 2 du Front National qui s'intéresse à cette question et notamment au rapport qu'entretient Jean-Marie Le Pen à l'homosexualité. Alors ce qui est intéressant, c'est que Jean-Marie Le Pen, il s'est toujours accommodé de la présence d'homosexuels au sein du Front National. Et vous avez par exemple, il relate une anecdote alors qui est tenue par Laurent de Saint-Afrique, donc qui est un ancien conseiller de Jean-Marie Le Pen, pour les questions internationales ou autres, qui depuis a quitté le Front National, qui n'a jamais caché sa bisexualité, et qui raconte aux auteurs qu'un jour il se rend à la Trinité-sur-Mer avec son compagnon de l'époque, et Jean-Marie Le Pen est tout à fait au courant, et il arrive, il retrouve Jean-Marie Le Pen sur le port, et Jean-Marie Le Pen lui dit « Bon, je vous ai pris une chambre pour deux, vous êtes des soldats. » Ce qui voulait dire, bon, c'était un moyen un peu élégant pour Jean-Marie Le Pen de leur dire qu'il allait les laisser dans leur intimité. Pour autant, ce que ne supporte pas Jean-Marie Le Pen, c'est justement le coming out. Hein, c'est de faire part ouvertement de son homosexualité au sein d'un parti comme le Front National. Et là-dessus, Jean-Marie Le Pen avait des discours extrêmement violents. Par exemple, lors de la fameuse émission L'heure de vérité en 1984, ce qu'on considère souvent que c'est l'émission qui l'a fait véritablement décoller dans les sondages, Jean-Marie Le Pen déclare « L'homosexualité n'est pas un délit, mais constitue une anomalie biologique et sociale. » Et il dit un peu après, l'activisme homosexuel fait peser une menace mortelle sur notre civilisation. Et il avance ensuite, l'homosexualité nous conduit, si elle se développe, à la disparition du monde. 10 ans plus tard, en 1995, lors de l'université d'été du Front National, Jean-Marie Le Pen lance à l'assistance « Je confesse qu'il doit y avoir des homosexuels au Front National, mais il n'y a pas de folles. Les folles, on les envoie se faire voir ailleurs. » Alors c'est un discours, une phrase qui est tenue dans un contexte tout à fait particulier, c'est-à-dire quelques jours après seulement le décès, dans des circonstances très troubles, de Jean-Claude Poulet-Dachary, qui était l'adjoint au maire de Toulon, donc qui venait passer sous la coupe du Front National, et dont la presse venait juste de révéler l'homosexualité tapageuse. Alors c'était d'autant plus drôle que c'était un ancien légionnaire et qui, tour à tour, cultivait soit les valeurs viriles, soit on le voyait dans les boîtes travesties de la région et qui ne se cachait absolument pas de son homosexualité. Alors, voilà, on a un Jean-Marie Le Pen qui est ouvertement homophobe, hein, même s'il tolère la présence de certains homosexuels au sein du Front National. Mais on voit quand même, dans le courant des années 2000, amorcer un changement avec, en 2006 par exemple, Jean-Marie Le Pen qui dit ne pas souhaiter abroger le PACS. Bon, c'est quand même, même si ça figure dans le programme du Front National, ça, c'est un certain revirement. Mais bon, ça l'empêche pas de continuer à tenir des discours homophobes. Par exemple, en 2007, il dit, je cite, « Dans le marais de Paris, on peut chasser le chapon sans date d'ouverture ou de fermeture, mais dans le marais de Picardie, on ne peut pas chasser le canard en février. » Bon, il tient cette phrase devant une assemblée de chasseurs. Bon, et ça, c'est une espèce de provocation un peu dans une verve virile dont il a le secret. Alors moi, dans le cadre de mon enquête, j'ai été assez surpris pour la première fois de rencontrer des cadres, des militants, des adhérents de toutes conditions qui exprimaient une certaine forme d'empathie à l'égard des homosexuels. Et ça, c'est quelque chose véritablement de nouveau, y compris des gens que j'avais interrogés quelques années auparavant, qui tenaient un tout autre discours sur la question et qui exprimait donc une certaine forme d'empathie avec l'agressivité homophobe dont seraient victimes certains homosexuels dans certains quartiers, encore une fois, tenus, entre guillemets, par une présence musulmane très importante. Vous avez par exemple Louis Alliot, qui est le candidat du Front National à Perpignan, qui est le compagnon de Marine Le Pen. Et lorsque je l'interroge et je lui demandais donc ce ralliement pour vous d'homosexuels au Front National se fait sur la base de problèmes dans les banlieues, il me répond ah oui, qui sont liés à l'intégrisme musulman, quoi qu'on puisse en dire, mais il ne faut pas non plus en faire une question centrale. Alors ça pose la question notamment du rapport à la politique des homosexuels. Alors il y a plusieurs enquêtes qui ont été réalisées, notamment par l'IFOP et par le CEVIPOF en 2012, bon, qui montrent que les homosexuels sont très majoritairement à gauche, se votent très majoritairement à gauche, bon, notamment pour le Parti Socialiste, parti qui a voté le PACS, qui a permis d'améliorer leurs conditions. Mais ce que révèle quand même cette enquête, hein, qui date de 2012, qui est assez surprenante, c'est que par exemple, 10% des homosexuels ou bisexuels interrogés se disent proches du Front National, ce qui est un point de plus que dans le reste de la population. Et ça, c'est quelque chose... auparavant, il y avait toujours un différentiel entre l'ensemble de la population et les homosexuels par rapport au Front National, et là, pour la première fois, on voit un équilibre. En ce qui concerne les intentions de vote, il y a toujours eu un différentiel, hein, en ce qui concerne Jean-Marie Le Pen, hein, entre, bon, d'une part, les hommes et les femmes. Hein, les femmes ont toujours été sous-représentées dans le vote Front National, entre 4 et 7 points. Ce n'est plus le cas avec Marine Le Pen. Et il y avait la même chose avec les homosexuels, il y avait un différentiel même plus important de 6 à 7 points entre le vote des homosexuels et bisexuels pour le Front National et pour le reste de la population. Et pour la première fois en 2012, on arrive pareil à des taux équivalents, c'est-à-dire c'est 19% chez les homosexuels et bisexuels et 19,5% au niveau de l'enquête, c'est des intentions de vote, c'est pas des résultats au niveau du reste de la population, de l'ensemble de la population. Donc, à ce niveau-là, on voit quand même un changement d'attitude de la part de la population homosexuelle à l'égard du Front National. Alors, il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, et ça c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans mes terrains d'enquête, y compris que j'ai mené auprès d'électeurs, là des enquêtes quali auprès d'électeurs, dont là pour le coup ce ne sont ni des adhérents ni des cadres. L'image de Marine Le Pen a joué un rôle important à ce niveau-là. Ses discours sur l'homosexualité, prétendant prendre la défense de l'homosexualité, le fait que dans son entourage, bon, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé à Hénin-Beaumont, mais bon, l'outing qui a été fait de certains candidats locaux de leur homosexualité. Bon, le fait qu'elle soit supposée gay-friendly a pu changer l'attitude de beaucoup d'homosexuels à l'égard du Front National. Et j'ai interviewé pas mal d'homosexuels, électeurs et au sein du Front National, qui m'ont dit qu'à ce niveau-là, ses discours et son image avaient changé quelque chose de façon notable. Alors, l'hypothèse qui est avancée par le Front National, c'est encore une fois le danger islamique, le danger musulman, hein, et que ce ralliement d'homosexuels se ferait dans un contexte où d'agression, de stigmatisation à l'encontre des homosexuels de la part de personnes identifiées comme étant d'origine immigrée et plus précisément d'origine musulmane. Donc ça, c'est le discours qui est tenu par un jeune militant du Front National. Alors ça, c'est un discours que j'ai récupéré lors d'une émission de radio tenue sur France Inter en septembre 2011. Et des militants du Front National, ça aussi, c'est nouveau et c'était pas du tout par provocation, sont allés tracter dans le quartier du Marais, à Paris. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez notable. Donc le journaliste interroge ce jeune militant Front National et il lui demande « Est-ce que vous êtes gay ?» Donc il répond après une hésitation « Oui ». Et est-ce que le journaliste demande « Est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait que vos camarades soient contre le mariage gay ?» Et donc ce jeune Thierry répond « Moi je vais vous dire une chose, je ne vais pas voter pour le PS qui promet d'une part le mariage mais qui après laisse tous les droits des communautés qui vont à l'encontre des droits de la femme, à l'encontre des droits des homosexuels. Monsieur, j'ai vécu à Argenteuil avec 95% de musulmans où je peux vous assurer que je me suis caché comme un rat. Donc je préfère ne pas avoir le droit de me marier et vivre ma vie privée tranquillement. » Donc ça c'est vraiment l'exemple, le discours type qui est tenu par les homosexuels au Front National lorsqu'on les interviewe, ou même des gens qui ne sont pas homosexuels. Hein, c'est exactement, j'ai interviewé Marine Le Pen sur la question, c'est exactement ce qu'elle m'a dit dans les mêmes termes. Et donc il valait mieux une vraie protection dans ces quartiers difficiles des homosexuels plutôt que d'accorder le mariage qui finalement, de son point de vue, était un droit mineur. Donc, de ce point de vue-là, les musulmans sont véritablement présentés comme la figure inversée du libéralisme au niveau, en ce qui concerne, les valeurs morales. Alors, comme je le disais en introduction, cette conjugaison entre nationalisme et rapport à la sexualité, c'est pas quelque chose de nouveau en ce qui concerne l'extrême droite. Hein. Là, je fais référence aux travaux de George Moss, par exemple, hein, l'historien qui s'est beaucoup intéressé au totalitarisme nazi et fascisme, et qui montre par exemple que tout dans le courant du 19e siècle, le nationalisme se construit avec des valeurs sexuelles, de façon très forte et très importante, et ce nationalisme est très fortement, à l'époque, teinté déjà de xénophobie, mais également d'antisémitisme, de sexisme, hein, et bon, d'homophobie. Et donc, il y a beaucoup de témoignages qui montrent que, par exemple, les juifs sont présentés comme des déviants sexuels, ce sont des éléments lâches et pleutres, et donc indignes d'être intégrés à la nation. Donc ça, ce sont les discours nationalistes français. Et que le nationalisme se construit dans un rapport à la virilité. Et que pour George Moss, La virilité est indissociable de la construction du nationalisme dans le courant du XIXe siècle, notamment à travers la mise en place un peu partout dans l'Europe du service militaire. Une armée qui n'est plus une armée donc forcément soit de métier, soit de mercenaires, mais une armée de conscrits, avec des gens que l'on va socialiser à la pratique de la guerre, et va se développer cette dimension de la camaraderie, et donc d'une forme de mise en avant de valeurs viriles. Donc de ce point de vue-là, virilité et nationalisme, dans leur constitution, sont quasiment indissociables. Et autre historien, Pierre Birenbaum, hein, qui a montré qu'il y a, à l'époque de la fin du 19e et du début du 20e siècle, il y a deux figures répulsives du nationalisme d'extrême droite, hein, qui sont d'ailleurs souvent conjuguées. Mais c'est d'une part les étrangers, voire les juifs, et d'autre part les homosexuels, les deux étant souvent conjugués, hein, puisque les juifs sont souvent montrés comme étant des êtres féminisés, à qui on prêtait souvent des mœurs bisexuelles, et dans le même temps, et ce qui n'est pas le moindre des paradoxes, c'est des individus qui expriment la volonté de ravir la femme blanche. Donc on est dans une espèce de contradiction totale de discours complètement incohérent, mais qui montre bien qu'il y a cette dimension de l'identité sexuelle se conjugue très fortement à cette époque avec cette dimension de l'identité nationale et nationaliste. Donc c'est quelque chose, c'est une dimension qu'on va retrouver beaucoup dans les discours d'extrême droite, y compris au Front National, jusque dans les années 1990-2000, cette espèce d'antisémitisme, d'associer aux juifs des valeurs en quelque sorte, on va dire, des mœurs subversives. Le tournant... Alors moi, on en reviendra sur la discussion, mais j'ai quelques réserves avec certaines de ces interprétations, mais par un auteur comme Jasbir Puar, par exemple, le tournant, c'est le 11 septembre. C'est à partir du 11 septembre où le nationalisme, en tout cas en Europe et aux États-Unis, se détourne de plus en plus de la figure du juif comme figure répulsive, et se fixe de plus en plus sur celui qui est présenté comme le musulman. Et avec un retournement, c'est-à-dire que on passe d'un nationalisme qui était très volontiers conservateur en matière de mœurs à un nationalisme qui désormais se présente comme étant la figure de la défense de la liberté des mœurs, hein, de ce qu'on peut appeler Gaël Brustier appelle ce qu'il appelle l'hédonisme sécuritaire, hein, c'est-à-dire cette dimension de pour préserver ces mœurs hédonistes, préservons-nous de ces musulmans, hein, ontologiquement sexistes, homophobes, volontiers antisémites, et donc incompatibles avec notre propre société. Donc là, on arrive vraiment dans une logique de choc des civilisations à cette époque, hein, qui s'exprime à travers cette dimension des mœurs. Alors le premier à l'avoir mis en place en Europe, à avoir tenu ce discours, c'est... Si vous pouvez m'aider, aux Pays-Bas. Avant Wilders. Pim Fortuyn, voilà. Donc il y a une dizaine d'années, le premier c'est Pim Fortuyn, hein, qui exprime, donc lui qui est un libéral et qui tient un discours très... Donc on est dans la suite de l'assassinat de Théo Van Gogh... Comment ?
Qui était sociologue.
Oui, absolument, qui était sociologue. Et qui donc est le premier à mettre en avant cette dimension du choc des civilisations et d'exprimer un rejet de l'islam au nom de la préservation de cette défense des valeurs libérales, notamment en matière de mœurs. Et d'ailleurs, lui-même était homosexuel, hein, et mettait en avant la volonté de légaliser le mariage homosexuel, ce qui a été juste avant ou juste après sa mort, je ne sais plus. Il a été assassiné par un militant de la cause animale. Mais ça a été le premier à, d'une part, exprimer ce discours et d'autre part à montrer tous les dividendes politiques qu'on pouvait tirer d'un tel discours, puisqu'il y a eu véritablement aux Pays-Bas un très fort succès de la liste qu'il a présentée. Alors là encore, j'en reviens avec cette question de l'islam est-il intrinsèquement homophobe. Donc si on prend par exemple l'enquête de Brouard et Sylvain Brouard et Vincent Tibéri, qui date de 2005, et qui montre qu'à l'époque, par exemple toujours sur les personnes supposément musulmanes vivant en France, 39% d'entre elles considèrent que l'homosexualité n'est pas une manière acceptable de vivre sa sexualité, alors qu'à l'époque, seulement 21% de l'ensemble des Français pensent la même chose, soit un écart de 18%. Et donc là encore, on est dans l'hypothèse, selon le Front National, que ce sont les agressions, les insultes à l'encontre des homosexuels qui seraient la cause de ce... Enfin, qui seraient... La cause aurait pour conséquence de rallier les homosexuels à ces discours populistes ou nationalistes. Bon alors, Brouard et Tibéri rappellent toutefois qu'il n'y a pas si longtemps, en 1995, c'est-à-dire au moment de la création du PACS, il y avait 35% des Français, interrogés alors par le CEVIPOF, qui pensaient que l'homosexualité n'était pas une manière acceptable de vivre sa sexualité, soit un chiffre très proche de celui des musulmans français, supposément musulmans français, au moment de l'enquête, c'est-à-dire 10 ans plus tard. Donc là encore, on voit qu'on n'est pas que dans quelque chose de figé, on est dans quelque chose qui est évidemment qui peut évoluer, que la majorité des gens supposément musulmans sont quand même tolérants en la matière, il faut le rappeler, et que encore une fois, tout comme pour le sexisme, la tolérance augmente avec l'âge, le niveau d'éducation et l'insertion professionnelle. Alors maintenant, ce à quoi on peut s'intéresser, ce sont les militants du Front National qui font part de leur homosexualité et les raisons qui les ont poussés à rejoindre le Front National. Alors tout d'abord, j'ai pas interrogé énormément d'adhérents ou de cadres du Front National homosexuels. J'en ai interviewé... Alors j'ai interviewé 2 femmes et 10 hommes, mais bon, ça n'est évidemment pas significatif, mais je pense, enfin ça n'est pas représentatif, mais je pense que ça reste quand même significatif de ce point de vue-là. Mais lorsque je les interroge, en fait, le discours que j'ai, c'est ce qu'ils me disent tous, c'est finalement les idées du Front National, je les ai toujours eues. J'ai toujours eu les idées du Front National, j'ai toujours été d'accord avec le Front National sur l'immigration, sur l'insécurité, sur la dénonciation des élites. Seulement, je ne votais pas, je n'adhérais pas, parce que y avait les diatribes de Jean-Marie Le Pen contre les homosexuels, certains autres cadres du Front National, comme Roger Olyndre, qui se répandait dans les médias contre les PD, etc. Et donc tout ça faisait que beaucoup d'homosexuels refusaient de voter Front National, encore moins d'adhérer, ou alors quand ils votaient, naturellement, ils ne pouvaient pas adhérer. Et les choses changent, ce qui a changé encore une fois, c'est vraiment l'accès de Marine Le Pen à la présidence du Front National. Là, j'ai quasiment tous les gens que j'ai interviewés qui m'ont fait part de leur homosexualité, qui m'ont dit « là c'est bon, on peut y aller, là c'est bon, je sais que je ne vais pas être stigmatisé dans ce parti ». Donc Marine Le Pen elle-même m'a dit dans un entretien qu'elle m'a dit qu'il y avait une époque, je cite, il y avait quand même une période où les premiers sujets des mails que je recevais, c'était ça, je suis homosexuel, est-ce que j'ai le droit de venir au Front National ? Tellement l'image était sulfureuse. Donc elle reconnaît elle-même que les déclarations de son père sur l'homosexualité n'ont pas véritablement aidé le Front National à se rapprocher des homosexuels. Et mais encore une fois, il n'y a pas eu aucun des homosexuels que j'ai interviewé m'a dit s'être fait agresser, insulter ou conspuer par des gens d'origine étrangère musulmane. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas, que ça n'est pas arrivé, mais en tout cas, dès le départ, il y avait des prédispositions idéologiques en faveur du Front National, hein, qui n'a pas été, à mon avis, véritablement une sorte de prise de conscience subite qu'il fallait voter pour le Front National pour se défendre contre une certaine présence musulmane. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai interviewé plusieurs homosexuels alors qu'ils m'ont fait part d'une certaine forme de discrimination, voire de stigmatisation à l'intérieur même du Front National. Et ça, c'est vrai que c'est une sorte de clivage psychologique, de contradiction psychologique qui a été assez dur à vivre pour certains des homosexuels que j'ai rencontrés. Notamment, par exemple, c'est assez intéressant. Alors, il faudrait que je refasse un entretien avec lui, mais j'avais fait un entretien avec un chef d'entreprise d'une trentaine d'années qui venait du sud de la France et alors qui lui se définissait plutôt comme étant bisexuel. Bon, il avait eu jusqu'à 2 ans avant le premier entretien que j'ai fait avec lui, il avait été avec des filles, ensuite il a été avec des garçons et dernièrement il m'a appris qu'il était candidat dans une commune du sud de la France qui, d'après ce qu'il disait, était gagnable. Et alors là, il s'est mis en couple avec une femme et il a tout fait pour que j'anonymise tout ce qui le concernait dans mes recherches. Alors pourtant, j'avais changé son prénom, j'avais rendu la situation géographique extrêmement floue, mais en tout cas, il était vraiment très attaché à ce que, sur cette question des mœurs, tout soit complètement effacé. Bon, c'est quand même un peu le signe que c'est pas forcément évident pour lui d'assumer cette identité. Mais j'ai fait par exemple un entretien alors avec une militante du Front National de 40 ans qui a rejoint, alors elle c'était une électrice du Front National depuis 10 ans, qui a rejoint le parti, qui a pris sa carte lorsque Marine Le Pen a pris la tête du Front National. Seulement, elle était dans une fédération dominée par les Golnichiens, donc avec beaucoup de catholiques traditionnalistes, et qui fait que elle a eu quelques problèmes de ce point de vue-là. Elle a dû un peu revoir ses ambitions militantes à la baisse. Je vous lis juste un extrait d'entretien parce que ça me paraît assez emblématique. Elle me dit « Parce que si vous voulez, nous, quand on a pris notre carte, donc elle et sa compagne, on était extrêmement motivés, extrêmement désireuses de s'engager, de bouger quoi dans la fédération. On n'avait pas mesuré, on n'avait jamais fait de politique avant non plus, et on s'est rendu compte que Marine n'est pas la présidente que beaucoup de militants auraient souhaité dans cette fédération. Et ça, moi, ça me pose un problème parce qu'on nous met de côté. Et clairement, on se prive de compétences et de volonté parce que la personne que l'on soutient n'est pas Monsieur Golnisch. Et donc ça, au-delà du côté de l'organisation et des affinités politiques, ça fait à peu près 2 mois et demi qu'on n'est pas retourné à la permanence. Aussi parce qu'on a entendu des remarques qui nous ont été obligeamment rapportées. Elle cite « Ah mais vous ne savez pas, elle est homosexuelle. Donc nous, ce qui nous désole, c'est qu'on n'a pas notre place ici, alors qu'on voudrait l'avoir. Moi, je voudrais prendre des responsabilités. » Donc là, on voit clairement une forme de stigmatisation, de discrimination à caractère homophobe. Mais finalement, ces deux militantes, pleines de bonne volonté, se trouvent démunies pour faire face à ce type de discrimination au sein du parti. Évidemment, elles n'ont à ce niveau-là aucun recours. Donc, très forte homophobie, mise en avant de l'homophobie des musulmans, mais finalement, paralysie lorsque ça s'exprime entre les murs du Front National. Alors, cette dimension de l'hédonisme sécuritaire, comme l'appelle Gaël Brustier, c'est quelque chose... Il y a eu Pim Fortuyn aux Pays-Bas qui l'a mis en place à la fin des années 1990, enfin dans le courant des années 90. Il a eu une forme de successeur en la personne de Geert Wilders, donc aux Pays-Bas, lui également est un homosexuel revendiqué, qui défend le droit des gays, qui défend le mariage homosexuel. et qui montre tout à fait les dividendes que l'on peut tirer de ce type de discours. Vous avez l'UDC de Freisinger en Suisse également, qui s'inscrit dans cette forme de défense des valeurs hédonistes occidentales. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les homosexuels du Front National, pour autant, tous, la plupart, ne sont pas opposés au mariage homosexuel, mais n'osent pas franchir le pas. Et la raison qui est invoquée, c'est d'avoir peur d'être taxé de communautariste. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment revu, enfin que j'ai vu dans tous les entretiens. C'est-à-dire, voilà, j'aimerais bien me marier avec mon copain avec qui je vis depuis 2 ans, j'aimerais bien me marier avec ma copine avec qui je vis depuis 15 ans maintenant, mais j'aurais peur que ce soit pris pour une revendication communautaire. Et là, j'ai vraiment vu des gens assez... assez mal à l'aise avec ça, assez triste de ne pas pouvoir se marier. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'opposition au mariage homosexuel, lorsqu'il est formulé par Marine Le Pen, elle le met pas du tout sur le registre des valeurs morales ou des valeurs politiques, mais des valeurs culturelles et civilisationnelles. C'est-à-dire, elle dit, pour elle, donc ça c'était dans une émission de radio en juin 2011, elle dit « Le mariage s'effectue entre un homme et une femme. Je ne pense pas qu'il soit positif de changer cette règle, parce que si on part de ce principe, on peut aller à les limites très loin dans la modification de notre civilisation. Pourquoi pas la polygamie ? Il existe des polygames, pourquoi est-ce que demain, un certain nombre de groupes politico-religieux ne demanderaient pas que la polygamie, sous prétexte d'égalité des droits, soit inscrite dans le code civil français ? Eh bien, c'est une autre civilisation. Donc, sous prétexte d'égalité des droits... Vous voyez, donc là, on est vraiment dans le registre de la stigmatisation du communautarisme. Alors, communautarisme, personne ne défend le communautarisme en France. C'est un peu le paradoxe de ce terme qui ne veut rien dire. Mais qui, en tout cas, dissuade beaucoup de gens, d'homosexuels au Front National, de revendiquer cette forme d'égalité des droits. Donc là, on n'est pas dans le registre forcément de l'homophobie, puisqu'il y a des tas de dirigeants du Front National qui ne sont pas homophobes, qui ont des amis homophobes, et j'ai pu le constater véritablement qu'ils avaient sincèrement des amis homophobes, mais plus dans ce que Éric Fassin qualifie d'hétérosexisme, hein, c'est-à-dire... un nivellement des sexualités entre homosexualité et hétérosexualité, c'est-à-dire on ne reconnaît pas l'égalité des droits aux homosexuels. Et donc là, on est vraiment dans une forme de clivage, de la peur, et avec un parallèle qui est sans cesse fait avec les musulmans. C'est vraiment une obsession. Donc je vais vous lire un entretien que j'ai fait qui est assez édifiant là-dessus avec un jeune militant du Front National d'une vingtaine d'années qui a rejoint le Front National également dans le sillage de Marine Le Pen et qui dit, alors il commence par parler du communautarisme, il dit « Moi là-dessus, je ne suis pas du tout pour les gens qui montrent leurs signes religieux. Quand je vois des gens qui veulent absolument faire des revendications pour étaler leur religion dans le domaine public, alors que pour moi, tout le monde doit être égal. » Je suis contre les communautaristes, en fait. Je n'aime pas les gens qui défendent leur pain, on va dire. Bon, si je veux être honnête avec vous, de toute façon, c'est anonyme. Donc je réponds oui, absolument. Voilà, donc si je veux être honnête avec vous, ma copine est un copain. Donc, du coup, toutes les revendications communautaristes du milieu homosexuel, ce n'est pas ce qui me plaît non plus. Je suis pour l'adoption jusqu'à une certaine limite, mais je suis contre le mariage. Je suis pour des améliorations parce qu'il y a quand même des problèmes avec le Pax et tout ça. Je trouve ça bien, mais ça ne va pas assez loin pour le patrimoine et des choses comme ça. Mais ça, personne ne le sait que je suis... mes amis le savent, mais dans le domaine public, professionnel et tout ça, ils n'ont pas à le savoir. Donc il y a cette volonté assez intéressante de vouloir qu'on aille plus loin dans le Pax, mais on ne va pas jusqu'à réclamer naturellement l'égalité des droits au nom, encore une fois, de cette peur d'être taxé de communautariste. Et je vous recite un entretien donc fait avec la militante lesbienne que j'ai déjà citée tout à l'heure et qui me dit sur cette question... Moi, je suis paxé, je suis très bien paxé. J'estime qu'il doit y avoir une reconnaissance du couple, y compris au niveau impôt, au niveau succession. C'est un petit peu moins évident avec le Pax, mais je pense que le Pax devrait aller un peu plus loin, si vous voulez, dans la prise en compte de l'autre personne. Maintenant, le mariage. Comment dire ? J'ai peur que souvent ce soit demandé comme une revendication d'une différence. Et c'est ça qui me gêne. Voyez, ce serait... Moi, j'aimerais me marier avec mon ami, bien sûr, mais par besoin personnel, ce ne serait pas une revendication. Bon, elle fait un parallèle avec la Gay Pride. Elle dit, c'est comme la Gay Pride. Je fais une toute petite parenthèse sur la Gay Pride, parce que moi, ça me fait dresser les cheveux sur la tête, parce que nous, ce n'est pas ça. Les trois quarts des couples homosexuels, ce n'est pas la Gay Pride, ce n'est pas de la provoque, ce n'est pas donner à voir, ce n'est pas s'exposer, ce n'est pas provoquer. Et donc... Tous les homosexuels que j'ai rencontrés, que j'ai interviewés au Front National, sont dans des conduites d'effacement de soi. Ben, c'est-à-dire, ils ne vont pas tenir la main de leur copain en public, ils ne vont pas l'embrasser, ils ne vont pas le caresser, y compris dans un cercle restreint d'amis proches du Front National qui connaissent leur homosexualité, qui savent qu'ils vivent en couple. Ils vont faire très attention à surtout ne jamais exposer le moindre signe qui pourrait laisser trahir... une attitude, un comportement homosexuel. Alors, malheur à ceux qui s'y risquent malgré tout. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette jeune étudiante qui était à Nanterre, qui s'appelait Vénusia Myrtil, qui était une petite métisse, qui venait du NPA, qui a été accueillie à bras ouverts au Front National, qui a été extrêmement médiatisée et qui avait mis sur sa page Facebook qu'elle était pour le mariage homosexuel, qu'elle était pour la dépénalisation du cannabis, etc., et qui affichait ouvertement son homosexualité. Et on lui a demandé de rentrer dans le rang, évidemment. Elle avait une personne qui l'a cornaquée au sein du Front National, qui lui a dit qu'il fallait qu'elle arrête avec tout ça. Et bon, on lui a mis tellement de pression sur ces questions-là qu'elle a fini par quitter le Front National. Donc, cette question, pour en revenir à cette question du communautarisme, c'est vraiment, enfin, on est vraiment dans l'ordre là de l'identitaire civilisationnel, et pas du tout dans le cadre de la morale et du droit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est emblématique sur cette question au Front National, à savoir que au Front National, tout est basé sur la question identitaire. C'est-à-dire que l'identité nationale, c'est la pierre angulaire de tout le programme du Front National, de toute la politique, de toute l'idéologie du Front National. Au niveau économique, c'est quoi? C'est la préférence nationale qui a été rebaptisée la priorité nationale, c'est la fermeture des frontières, c'est la sortie de l'euro, c'est la modification du code de la nationalité. C'est-à-dire que toute solution passe essentiellement par une dimension identitaire. Alors, soit de repli sur soi, soit de stigmatisation ou autre. Et la question sexuelle, la question homosexuelle, la question du sexisme, la question de la fécondité, la question de la condition des femmes est sans cesse rattachée à cette dimension de l'identité nationale. Et je vous lis un dernier extrait d'entretien, alors là fait par un homosexuel du Front National d'une trentaine d'années, ancien électeur, ancien militant de l'UMP, déçu par Nicolas Sarkozy et qui a rejoint Marine Le Pen, et qui me dit, il est juriste, faisant moi-même partie d'une communauté homosexuelle, je n'arrive pas à comprendre le communautarisme, ça me dépasse, je ne m'y reconnais pas du tout, je suis une minorité donc je pourrais être discriminé. Mais non! Si au travail j'ai une réprimande, ce n'est pas parce que je suis gay, c'est parce que je suis nul, c'est différent, sauf à tomber sur quelqu'un d'ouvertement homophobe. Enfin, on s'en rend compte quand même. Et c'est vrai que tout ce positionnement de communauté revendicative mettant systématiquement en avant une différence, je n'arrive pas à comprendre parce que je ne suis pas comme ça. J'évolue dans une communauté qui est la communauté nationale, où on a, fort heureusement d'ailleurs, des différences, mais on doit avoir, pour moi, un berceau commun. Donc, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que sans cesse, ce parallèle avec la prétendue communauté musulmane, c'est-à-dire si je mets en avant la défense de droits, si je réclame l'égalité des droits, par exemple le mariage, ça va être interprété non pas comme quelque chose, une revendication pour une égalité, mais comme des droits spécifiques. Donc tout est interprété à travers la problématique du multiculturalisme finalement, qui est défini comme étant la contradiction du républicanisme, et donc qui s'insère très bien aujourd'hui dans les débats qui tournent autour de ces questions entre intégration et valeurs républicaines, d'intégration et valeurs multiculturalisme qui octroient des droits spécifiques. Alors pour autant, beaucoup d'homosexuels m'ont fait part de leur soulagement d'avoir constaté, lorsqu'ils ont adhéré au Front National, d'avoir pu identifier d'autres personnes homosexuelles. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez, d'assez intéressant. Et juste, je conclurai là-dessus, ça fait quasiment dans les temps. Ce que je trouve, entre guillemets, remarquable au niveau du Front National, depuis maintenant 20 ans que je l'étudie, c'est la façon dont ce parti arrive à s'adapter aux évolutions sociales et culturelles. C'est absolument fascinant. C'est-à-dire que dans les années 90, il y a eu le développement de ce qu'on a appelé le différentialisme culturel, qui a permis au Front National de reconfigurer son discours nationaliste en l'adaptant à la condamnation des discours racistes prohibés par la loi. Et donc c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'attaque pas une communauté, mais on glorifie les différences. Et pour préserver les différences, on s'oppose à l'immigration au nom de la préservation des différences. Vous avez aujourd'hui le discours républicain qui est mis en avant, et notamment le discours féminisme, l'hédonisme occidental, mais toujours pour préserver la pierre angulaire idéologique de ce parti, qui est les fondements nationalistes identitaires. Voilà, je conclue là-dessus. Voilà, merci de votre attention.